Allô, allô, ici Radio Kiki. La radio des enfants qui se demandent qui est qui. Aujourd'hui, nous allons nous promener dans les musées. Ensuite, nous enquêterons sur les noms de familles bizarres. Si vous voulez faire des reportages avec nous, écrivez à radiokikigmail.com ou envoyez-nous un message par télépathie. Attention, 1, 2, 3, feu partez.
Allez, ça va commencer là!
Oui, j'arrive!
Radio Kiki, la radio faite par et pour les enfants du 11-90.
Un programme charme, clair, rugby, grand air. Avec les soutiens de Lise Nord, elle Gris Dilo et VGP.
Du musée de zoologie de l'ULB, en partenariat avec Radio Campus et du ministère de la Joie de Vivre.
Et Radio Kiki, on va dire c'est qui parle, ouais.
Viviane, la conservatrice du musée de zoologie et d'anthropologie de l'ULB, nous confie ses formules chimiques pour conserver les animaux empaillés. Bienvenue au museau.
Vous êtes ici dans un musée de zoologie et presque tous les animaux viennent du zoo d'Anvers. Alors dans les zoos, quand un animal meurt, les musées peuvent racheter la dépouille de l'animal. Alors on peut en faire un empaillage, on appelle ça une peau, par exemple la tortue, on a gardé sa peau et sa carapace et on l'a bourré avec de la paille pour refaire une tortue. On peut aussi faire un squelette. Alors les taxidermistes qui sont très doués, avec un animal, ils font la peau et le squelette. Donc vous voyez par exemple ici, le petit loris. On a refait l'animal avec sa peau. Et donc on a remplacé son squelette avec des barres de fer, des fils de fer. Et on l'a rempli de paille ou d'ouate pour lui donner de nouveau la forme de l'animal vivant. Et d'autre part, on a pris tous ces ciseaux, on les a enfilés sur des petits fils de fer aussi, et on a refait un squelette.
Oui. Et celui-ci aussi ? Mais il est
dans... Ah, là, c'est une autre solution. Une autre solution, c'est de prendre l'animal et le mettre dans... Enfin, l'injecter d'abord de formol pour qu'il conserve, et puis le tremper dans l'alcool. Et alors, on le conserve comme ça, indéfiniment.
Et dans ça fait mal ?
Mais ils sont morts quand ils font ça.
Ils ont toujours leur squelette.
Et là, ils ont toujours leur squelette. Ah, il a fait une poussine.
C'est une espèce comme ça
Oui, c'est un tarsier, comme ça.
C'est rare, sûrement.
Non, c'est pas très rare, les tarsiers. Ils sont tout petits, les tarsiers tout petits.
Ça, c'est un tarsier aussi.
Ah, moi, je ne les ai pas empaillés. Hein. Ce sont des animaux qui ont été empaillés. Par un taxidermiste, il y a environ à la fin des années 1800. Donc il y a vraiment longtemps. C'est une vieille collection. Ça va? C'est quoi ça qu'on a entendu?
Je pense que c'est le monsieur avec le
photographe. Ah bon, il n'y a rien qui dépasse.
Il y a un truc étrange, j'ai demandé c'était quoi au professeur là. C'était un lapin qui a couché et les deux lapins ils étaient collés ensemble.
Il n'avait pas d'yeux et tout.
C'était qu'un cerveau avec les pattes et les deux pattes et la queue.
En fait c'était deux têtes siamois. Collées.
Des siamois, siamois. Voilà,
un lapin siamois.
Oui, on avait vu ça. Mmh.
Quelles sont tes impressions quand tu vois ça? T'es attiré par la curiosité? T'es un peu dégoûté? C'est vraiment la curiosité.
Je veux savoir c'est quoi et je...
Il y avait des pains, voilà. Des moules.
Des grosses
ça t'aime moules. Pas les moules.
Des grosses moules. Non.
C'était des grosses
moules
comme ça.
Il y avait des tortues. Ouais.
Des moules géantes.
Oui. Mmh. Comme ça. Mmh. Elle a dit que c'était pour une bonne vingtaine de personnes.
Hein? Il est mort-né là, pas à moi.
Il
est mort-né, le lapin.
En fait, c'était que la tête. Oui. Ça veut dire quoi?
Quand il est né, il est mort.
Oui.
Il était tout petit, avant la naissance. Et ça, je crois qu'il y en a deux, trois qui ont été impressionnés. Parce qu'en fait, il était mis vraiment sur le côté. C'est par hasard qu'on l'a vu. Il y avait un petit bocal. Et on avait vraiment ces lièvres siamois par la tête. Donc, ils n'avaient pratiquement qu'une seule tête, tous les deux. Il y avait deux corps. C'est vraiment impressionnant. C'était tout petit. Hein. C'était un petit bocal, allez, je veux dire, 25 cm de haut, grand maximum.
C'est impressionné.
Hein, le lièvre siamois.
C'est quoi ça? On a entendu?
Je pense que c'est le monsieur avec le
photographe. Ah bon.
Qui radio Kiki?
La radio qui disait Kiki parle.
Guy est le spécialiste des égouts de Bruxelles. Il nous emmène dans des souterrains où le caca et les rats règnent en maître. Bienvenue dans la poésie du musée des égouts.
Caca.
Plein de caca dans le mouche.
Dans le beurre.
Dans le mousse.
C'est dégoûtant.
Ouais, ici, il y en a plein. Des gros, des petits. Oh, même un qui est resté collé. Et d'habitude, il y a un rat qui vient, mais cette fois-ci, il n'est pas là.
Et c'est la mascotte qui s'appelle Arthur.
Donc voilà, je m'appelle Guy, je suis un ancien égouttier, donc pendant 10 ans j'ai nettoyé les égouts de la ville de Bruxelles. Et depuis maintenant 2 ans et demi, je suis responsable du musée des égouts, je forme les guides et je suis guide moi-même. Donc j'apprends à des enfants de primaire jusqu'à des adultes qui sont en secondaire, même à l'université, ce que c'est les égouts, à quoi servent les égouts, pourquoi est-ce qu'il y a des égouts et pourquoi est-ce qu'il faut épurer l'eau. Donc pourquoi est-ce qu'il faut empêcher que l'eau soit polluée ?
Lavez-vous autrement. Pour épargner 10 litres d'eau par jour en coupant le robinet lorsque vous vous brossez les dents. Prendre une douche plutôt qu'un bain vous fera économiser 60 litres.
Il y a tout plein d'eau.
Je veux bien y aller.
Quelle est l'idée de construire les égouts ?
L'idée de construire les égouts date de 1867 et c'est monsieur Anspach avec le roi Léopold II qui a décidé, après avoir été à Paris, de construire en fait les égouts, mais aussi de voûter la Seine. Donc voûter la Seine, c'est quoi? C'est enterrer la Seine, puisque avant cette date-là, il n'y avait pas d'égout à Bruxelles.
Les ouvriers qui travaillent dans les égouts, qu'est-ce qu'ils font la journée?
Eh bien, on nettoie. On nettoie les égouts de la ville de Bruxelles. Il faut vous dire qu'il y a 350 km d'égouts à Bruxelles. Donc, quand je vous parle de Bruxelles, je vous parle de la région. Donc, 350 km d'égouts, 35 km de collecteurs, donc 15 km de collecteurs à rail. Alors, la différence entre un égout et un collecteur, bah, en fait, tous les deux font la même chose, ils récupèrent toutes les eaux usées, mais l'un a la forme d'un œuf sur la pointe, ce qu'on appelle un égout, et le deuxième, ce qu'on appelle un collecteur, a la forme d'un champignon.
Le désablage, un premier bassin de taille réduite, permet au sable et gravillons de se déposer dans le fond. Ceux-ci sont ensuite lavés et peuvent être revalorisés dans la production du béton parallèlement.
Est-ce qu'à un moment, il y a plus de caca?
Ah ben oui, mais ça c'est une bonne question. Eh ben oui, justement, il y a deux moments dans la journée où, comme on dit, il y a plus de caca. Tous les matins, quand vous vous levez, vous ou vos parents, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la toilette, vous vous lavez, vous faites pipi, vous faites caca, voilà. Eh bien voilà, donc le matin, plus ou moins entre 7h30 et 9h30 du matin, il y a beaucoup plus de déchets qui vont dans les égouts. Et le soir, c'est idem. À partir de plus ou moins 18h30 jusqu'à 21h30, eh bien, il y a plus de déchets dans les égouts.
Le matin. Un pipi dans la toilette le midi. Un pipi dans la toilette le soir. Un pipi dans la toilette la nuit.
Pipi caca pull down. Pipi caca pull down.
Quelle est la plus grande chose que vous avez vue ?
La plus grande chose ? Je dirais pas la plus grande, mais la plus spéciale. La plus spéciale, c'est en fait, c'est un mille-pattes. Il est contre le mur, vous l'éclairez, il devient tout rouge. Vous éteignez votre lampe et il devient fluo. Donc il reste tout rouge, fluorescent. Mais non, la plus grande chose que j'ai vue, c'est un rat. Et la plus grosse chose que j'ai vue, c'est moi, un ouvrier dans les égouts.
Se passe-t-il des trucs bizarres dans les égouts ?
Alors, les trucs bizarres, oui, il s'en passe. Parfois, on entend des bruits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, on se demande ce que c'est. On a aussi parfois des visites bizarres. Donc, on a parfois des rats qui viennent nous voir. Ils disent, tiens, qu'est-ce qu'ils font ? On va voir. Quand même assez loin, ils viennent voir, en fait, comment on travaille et qu'est-ce qu'on fait. Et il faut des rats dans les égouts parce que les rats mangent un tiers des saletés qu'il y a dans les égouts. Allez, venez, on va voir les rats. Voilà.
Oh mon Dieu.
Alors,
pas des vrais.
Comment c'est pas des vrais?
Mais
c'est
si.
Des c'est des empaillés.
C'est des empaillés. Voilà, c'est des rats empaillés. Pas des fous, c'est des vrais rats.
C'est des empaillés.
Mais on les a empaillés.
C'est inhumain ce que vous faites.
Pourquoi?
Pour le petit rat.
Ben les rats, il faut des rats dans les égouts.
Mais vous les avez tués.
Non, moi je sais pas, moi j'ai tué personne. Moi. C'est des rats morts. Attendez, chez nous dans les égouts, comme vous pouvez le voir ici.
Il y a des alligators.
Non, mais non, justement, il n'y a pas de crocodiles, il n'y a pas d'alligators. Il y a des rats, il y a des moustiques. Et il y a les grosses autres bébêtes qui sont les ouvriers. À part ça, il n'y a pas d'autres bêtes dans les égouts.
Caca ! Non. Caca !
Caca ! Gros caca !
C'est qu'il était gros ?
C'est un préservatif.
Caca ! Caca !
J'ai envie de voir un caca.
Il faut le toboggan. Caca !
Donc voilà, ici nous sommes dans un vrai égout, un collecteur, c'est un fond d'un champignon.
Il y a de l'eau en dessous.
En dessous, vous avez l'eau des égouts. Vous avez à se mettre ici.
Caca.
Ah bah oui, évidemment. Attends, les égouts, ça sert à quoi? Ah, il y a des doublants. Ah, ça c'est sûrement un caca de schtroumpf. C'est ça qui est là.
Mais je comprends rien, ces égouts, ça tombe par là ou par là?
Nous sommes en dessous de la chaussée de Mons. Donc au-dessus de vous, il y a 6 à 7 mètres de béton. Donc ici au milieu, roulent les camions, les bus et les voitures.
Vous êtes fait rouler dessus.
Vous êtes, oui, c'est ça, vous êtes fait rouler dessus. Ah oui. Donc, et ça, vous pouvez le voir, ici un peu plus loin, il y a une cheminée. Donc qui a regardé par cette cheminée, vous aurez peut-être une voiture ou un bus passer dessus. Attention, parfois il y a des chiens qui passent et qui font pipi. Donc, méfiez-vous quand même. Bien avancé.
Mais c'est déjà arrivé qu'il y avait un chèque de soins d'ouvrier.
Écoutez, écoutez bien. Écoutez. Vous entendez ?
Oui.
Et quand vous entendez, tac, 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 en fait, c'est parce que... Vous avez entendu ?
Oui, ouais.
C'est pourquoi ? Parce qu'il y a une voiture ou un camion qui passe sur une plaque qui se trouve au milieu de la rue, qu'on appelle une margelle. Et ça, ça fait chaque fois, tac, 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 tac.
Ouais.
Écoutez.
Tac, tac. La tenue ancienne est composée d'un béret sur la tête, d'un équipement en coton, une écharpe, des bottes en cuir, des lampes torches qui on n'a plus.
Des gants, alors qu'on n'en avait pas avant, des bottes en caoutchouc, une tenue
en
nylon, un casque avec une lumière qu'on met sur le front, un talkie-walkie. Bah oui, un talkie-walkie là.
Ça, un talkie-walkie.
Bon, on dirait.
Qu'est-ce qui est marqué ?
Un détecteur de gaz.
Ok. Ce qu'on a, par rapport à avant, qui n'existait pas, c'est un détecteur de gaz.
C'est très efficace, par contre.
Pas toujours, mais enfin, bon, oui, il est là, on l'utilise, mais c'est pas efficace à 100%.
Mais s'il y a du gaz, il faut tout de suite remonter, ça peut faire... c'est dangereux, en tout cas.
Oui, mais un exemple, dis-moi un gaz qui est très important.
Le gaz de voiture ?
L'oxygène ?
Ah bah oui, l'oxygène est un gaz, hein, je m'excuse, mais jusqu'à la dernière nouvelle, c'est un gaz. Donc en fait, cet appareil n'est pas là pour voir simplement tous les gaz qui sont dangereux, mais voir s'il y a déjà de l'oxygène pour travailler.
Ah oui, si
sans oxygène, moi je suis pas un poisson rouge, je sais pas travailler.
Voyez futé, récupérer l'eau de la pluie dans des citernes pour l'arrosage du jardin, le nettoyage et la voiture de la maison. Si vous en avez l'occasion, installez un circuit parallèle pour alimenter vos toilettes ou machines à laver. L'eau de pluie étant abondante, gratuite et exempte de calculaires, vous y trouverez vite votre avantage.
Est-ce que nous, les personnes de Bruxelles, pouvons faire quelque chose pour améliorer la couleur des égouts? Ou ça devrait toujours rester cette couleur normalement?
Ben, déjà, améliorer la couleur et l'odeur. Ben, pour l'odeur, ça va être un petit peu difficile. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a les toilettes, donc ça va être légèrement difficile, il faudrait manger autrement. Par contre, pour la couleur et tout ce qui se trouve dans l'eau, oui. Ça veut dire qu'un exemple, éviter de jeter tous les produits qui sont nocifs. Donc, la peinture, de l'huile, du tinaire, du white spirit, tous les produits qui sont corrosifs, eh bien, ça, il faut éviter de jeter ça dans les égouts. Mais il y a toujours moyen, je veux dire, il y a toujours moyen d'améliorer l'eau des égouts.
Est-ce qu'il y a des toilettes écologiques?
C'est vrai que... On demande souvent aux gens, je demande à savoir si chez vous à la maison vous avez une toilette avec deux boutons.
Oui.
Ah ouais, moi j'en ai qu'un seul.
Ouais, mais bon. Bon, alors pour ceux qui ont le système de boutons, le premier bouton c'est pour la petite commission et le gros bouton c'est pour la grande commission. Pour ceux qui ont un bouton, il y a toujours des idées. Ça veut dire que nous on en donne. Alors la première idée c'est quoi? Eh bien, dans le récipient où vous avez de l'eau, vous demandez à votre papa ou à votre maman de mettre une brique. Voilà, vous mettez dedans, ou alors une bouteille d'un litre d'eau, vous la remplissez d'eau, vous fermez le bouchon et vous la mettez dedans. Et comme ça, vous pourrez faire de l'économie d'eau.
Quel est votre plus beau souvenir?
Mon plus beau souvenir dans les égouts? Ben c'est vous. Ben non, c'est vous, je parle en général, ce sont tous les jeunes qui s'intéressent aux égouts. Pourquoi? Parce que c'est une chose qu'on ne connaît pas. Qui s'intéressent aussi à évoluer dans le sens de devenir un petit peu écologique dans ce qu'ils font tous les jours, en ne jetant pas ceci, ceci et cela à gauche et à droite. Donc voilà, ben pour moi, mon plus beau souvenir, ça sera ça.
Nous venons de sortir des égouts. Ici se termine la visite au musée des égouts avec Sabrina,
Jeanne, Achille,
Raoul, Thèse Oumou,
Michael,
Zoé,
Aude
et Guy, la personne qui nous faisait visiter le musée.
Et qui est égoutier.
La musique, pipi, caca, poil, garou est de Crapman Sacramento.
Pauline en vacances, a appelé d'urgence, Zoé de Radio Kiki, pour qu'elle aide à fignoler un reportage sur les noms de familles étranges. En effet, l'organisme de vacances Mains Unies comptait dans ses rangs de nombreuses personnes aux noms amusants. Bienvenue en Bretagne, sur le terrain de camping de Mains Unies.
Ben, mon nom de famille, c'est Abrassard, et je m'appelle Pauline.
Pauline Abrassard, est-ce que ton nom de famille t'a influencé par rapport à tes choix de vie? Dans Abrassard, tu entends bien qu'il y a Brassard. Est-ce que tu aimes nager, par exemple?
Oui, j'adore nager. Et d'ailleurs, mon père, c'était un plongeur professionnel. Et il est dans la catégorie des meilleurs plongeurs du monde.
Est-ce que tu as mis des brassards pour apprendre à nager?
Au tout début, oui, mais après je les ai enlevés parce que maintenant, je sais nager.
Donc, on peut dire que le fait de s'appeler Abrassard, t'as jamais eu peur de l'eau parce que c'est comme si t'en avais tout le temps.
Ouais.
T'as une Pauline.
Et d'ailleurs, mon frère, on dit toujours que c'est un poisson dans l'eau.
Oh, ton frère aussi?
Oui.
T'as combien de frères et sœurs?
J'ai un frère.
Donc vous êtes deux et vous savez hyper bien nager.
Voilà.
Est-ce que tu te poses d'autres questions sur les noms de famille des gens?
Oui, d'ailleurs, il y a toute une liste.
Mmh. Donc, ce qu'on va faire alors, Pauline, c'est qu'on va faire notre enquête. Parce que sur toi, ton nom de famille, tu t'es rendu compte que ça avait une importance. Ça avait quand même influencé ta vie. Et nous, on va faire une enquête pour savoir si les autres aussi, ça a influencé leur vie. Tu peux un peu nous dire tous les mots, tous les noms de famille qu'on a répertoriés?
Il y a Robert Mert. On va voir s'il aime bien, s'il aime bien le fonctionnement des toilettes sèches.
Eh bien, les toilettes sèches, moi, je trouve que c'est... Enfin, je vais plutôt dire ce que j'ai mon impression la première fois que je suis arrivé. Parce que bon, comme maintenant, c'est assez habituel, donc c'est un peu la routine. Mais la première fois que j'ai vu les toilettes sèches, je dois dire que j'étais assez inquiet. En me disant, qu'est-ce qu'ils ont encore trouvé pour un truc bizarroïde? Et en me disant, ça va sentir pas bon, etc. Et puis quand j'ai vu ça et que Il y a une petite odeur de sciure là-dedans plutôt que... Moi j'ai trouvé ça même plutôt agréable, donc moi je trouve ça très chouette.
Est-ce que les mouches te dérangent-elles ?
Elles me dérangent, mais est-ce qu'il y en a beaucoup dans les toilettes sèches ? Je ne crois pas. Enfin, j'ai pas remarqué qu'il y avait des mouches.
Non, mais pas que dans les toilettes, dans la vie habituelle.
Ah oui, mais ça c'est quand on est près des vaches, oui, ouais. C'est comme
toi,
ça quoi.
Tu es fermier ?
Je ne suis pas fermier, mais enfin, mais je sais que près des vaches, il y a toujours des mouches, donc...
Et tu es souvent près des vaches ?
Ben, ça arrive, mais je sais que quand je m'approche de vaches... Enfin, j'habite un petit peu à la campagne, mais il n'y a plus de vaches par chez moi, non, maintenant sur des chevaux qui sont juste à côté, non.
Est-ce que ton nom de famille a influencé ta vie ? Est-ce que tu trouves que c'est important, Robert Meert ? Est-ce que tu as senti quelque chose dans ta vie qui était... Je sais pas.
Ben, disons que c'est important parce que quand j'étais gosse avec un nom pareil, les plaisanteries faciles.
Tu les as eues.
Ben.
Inévitablement, les enfants sont méchants.
Ben, ça, c'est clair et net. Ah. Donc, à partir du moment où les gens deviennent un peu plus sensés, bon, il y a moins de problèmes, quoi.
C'est surtout quand on est petit que ça pose problème.
Oh, ça, c'est évident. Hein. Ben, ouais. Ça, c'est... Bon, ben, on a le nom qu'on a. Ah. Et après, bon. Mes enfants ont eu les mêmes problèmes, donc oui, on ne sait pas transmettre un autre nom de famille, donc si t'as le nez un petit peu de travers, t'as le nez de travers, si t'as une oreille qui est plus longue que l'autre, on se moque de ton oreille qui est plus longue que l'autre, n'importe quoi, bon, tout le monde a connu ça, quoi, donc ça c'est pas particulier.
Donc toi tu as senti que ton nom de famille était quand même quelque chose, si t'étais appelé autrement, t'aurais pas eu la même vie, ou ça aurait changé quelque chose pour toi ?
Mais je crois que ce n'est pas ça. Si j'avais été quelqu'un de grand, fort et costaud, je ne crois pas qu'on se serait moqué de mon nom.
Oui.
Mais comme j'étais la petite classe, donc alors bon, hein, c'est toujours sur les petits cons, spotch, hein.
Oui.
Bon, voilà, donc, enfin bon.
Il y a leader Diego. On va savoir si c'est pour ça qu'il est leader ici.
Alors, Diego, cette semaine, tu as été leader à Mains Unies. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça consiste ?
Mais simplement, voilà, à défaut d'autres termes, on a gardé le terme de leader, mais c'est plus un travail de coordination entre les différentes propositions des participants, étant donné que les vacances à Mains Unies sont des vacances participatives. Le rôle du leader n'est pas d'imposer ou de diriger, mais simplement de coordonner les propositions des participants afin que les ateliers ou les différentes sorties qu'ils proposent puissent se passer au mieux et intégrer un maximum de personnes que possible. Donc voilà en gros en quoi consiste le rôle du leader.
Est-ce que tu crois que ton nom de famille a influencé ta fonction de leader ? Car rappelle-nous comment tu t'appelles ?
Donc Diego Leder, voilà. C'est ça. Non, je pense plutôt que le fait que j'ai vu d'autres leaders à l'œuvre et que j'ai bien aimé la manière dont ils faisaient ça, en étant très discret, en essayant de pas trop de s'immiscer, mais de quand même coordonner bien les choses, m'a incité à prendre cette responsabilité. Mais le nom de famille, non, je ne pense pas.
Quand tu étais petit, est-ce que tu étais souvent chef ou pas ?
Non, je n'étais pas souvent chef, mais je n'étais pas suiveur non plus. Disons que j'ai toujours, on va dire que j'ai souvent eu des idées un peu différentes de ce qui se faisait, de ce que les autres faisaient. Donc je n'étais pas chef, mais je n'aimais pas suivre aveuglément non plus les autres quand ça ne me plaisait pas. Mais de toute façon, le rôle du leader est très différent du rôle de chef, parce que c'est pour ça qu'on cherche vraiment un autre mot. On hésite avec coordinateur ou d'autres mots, parce que c'est vraiment pas un rôle de chef, quoi. Donc, voilà.
Alerte Romain, on va lui demander si dans sa famille il y a des pompiers, des policiers, des ambulanciers, et si il est alerte. Chez toi, y a-t-il des policiers dans ta famille, des ambulanciers ou bien des pompiers ou...
J'ai un futur policier, mon beau-frère, essaie d'entrer dans l'école de police.
D'accord. C'est tout ?
C'est tout.
C'est déjà ça. Est-ce que dans la vie, tu es une personne dynamique ?
Je pense qu'on peut dire ça, oui.
Est-ce que ton nom de famille a-t-il influencé ta vie ou bien tes choix ?
Oh là là, quelle question. Ouais, un peu.
En quoi ?
Oh là, je sais pas, moi. C'est inconscient tout ça, donc... Donc c'est dur de dire ça. Non, ça, je ne sais pas t'aider.
Bah, merci. À le veau, Catherine, si elle aime bien manger de la viande de veau, ou bien si elle aime bien la ferme.
Bonjour.
Bonjour.
Y a-t-il des éleveurs ou des bouchers dans votre famille ?
Non.
D'accord. Et est-ce que vous aimez la viande ou les animaux ?
Les animaux, oui. Pas spécialement pour les manger après, mais je... Oui. Je sais pas dans quel sens c'était rédigé.
Mais si vous aimez la viande, laquelle vous aimez
Mais je mange pas souvent et peu de viande, mais j'aime bien généralement la viande blanche. Et quand je mange un steak, alors j'aime bien un bon gros steak, mais c'est peu fréquent.
D'accord. Et est-ce que votre nom vous a influencé dans vos choix dans votre vie ?
Mon nom ou mon prénom ?
Votre nom.
Ben, votre nom de famille.
Oui.
Vous a-t-il influencé dans votre vie, dans vos choix ?
Non.
Non.
Maman, c'est moi qui fais tout ça.
Donc ça n'a pas fait
après,
de problème ni rien.
Pourquoi c'est ciblé votre question ? Quoi, c'est parce que je m'appelle Le Veau, c'est ça ?
Non, on interroge tous les gens qui...
Non, mais genre pas... Non, moi franchement, c'est pas quelque chose qui me touche. Non, on m'a jamais fait de commentaires sur mon nom de famille.
Et aussi, une dernière chose, nous allons demander le nom de famille de Mehdi et celui de sa mère.
Parce qu'il faut savoir aussi que si on en vient à tout ça, c'est qu'on se demandait si Mehdi... un garçon qui nous intrigue parce qu'il sort jamais de sa tente. Et en fait, Mehdi, on connaît pas son nom de famille, il est même pas répertorié dans les listes. Et ce monsieur est très très mystérieux. Et c'est pour ça qu'on va faire toute cette enquête pour en arriver à savoir quel est le nom de famille de Mehdi. Parce qu'on a aussi des doutes, on soupçonne que sa mère s'appelle Laurence Van de Putte, mais on n'est pas sûr et on a un peu peur de
Mais Van de Putte, c'est parce que vous croyez, ça veut dire du puits.
Oui, en flamand. Mais en français, c'est assez dur. Parce que demander à quelqu'un qui s'appelle Van de Putte s'il a des prostituées, on est un peu gêné. Voilà. C'est pour ça qu'on en est venu à faire toute cette enquête.
Tu sais, pour les noms de famille de Laurence et Mehdi, c'est pas Van de Putte, c'est pire.
Mehdi ?
Oui ?
On voulait savoir si... Tu t'étais déjà retrouvé, enfin comment tu réagis dans des situations extrêmes ?
Extrême, tu veux dire quoi par extrême ?
Mais c'est déjà arrivé de te trouver dans une situation par rapport à ton nom de famille.
Bah, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Enfin, on m'embête rarement avec ça. Et souvent les blagues comme ça, c'est pas des blagues assez fines, on va dire, donc j'en souffre pas, je vais dire. Enfin,
tu peux nous dire ton nom ?
Mon Pierre.
Oui, tu t'appelles Mehdi Pierre.
Oui.
Il y a plein de dictons, de proverbes pour le meilleur et pour le pire.
Oui.
Et toi, tu ne t'es jamais trouvé dans des situations extrêmes ?
Ça n'a jamais eu aucun rapport, mon nom de famille, ma façon d'appréhender les situations un peu délicates.
Tu t'es déjà retrouvé dans une situation délicate ?
Situation délicate ? Ça peut être dans la vie de tous les jours, je sais pas. Je me suis fait prendre en flagrant délit par un professeur quand je trichais, ou bien...
Et tu réagis plutôt calme ?
Oui, souvent, je suis plutôt calme. Moi, ça risque aussi que je m'énerve si le professeur y va un peu fort. Ah. Moi, je suis plutôt calme d'habitude, oui.
Donc, quand même, quand on s'appelle pire, on a quand même, tu sais, une réflexion sur ce qui peut arriver de pire et bien réagir.
Non.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Il n'y a aucun rapport. Non.
Donc, les noms de famille n'influencent pas les
Non,
gens.
Je pense pas, non.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des reporters de Radio Kiki, écrivez un mail à radiokiki@gmail.com ou téléphonez à Zoé au 0 472 34 61 72. Ou alors, envoyez-nous un pigeon voyageur avec votre nom et votre sujet de reportage. Nous vous donnerons rendez-vous à minuit. Derrière le grand chêne à côté du musée de zoologie de l'ULB. Ciao ciao bambino, salut, adios amigos, à mercredi prochain. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes, 1, 2, 3, 4 et 5.
Non mais ça va pas non !
Au secours ! Au secours !